Bonjour à tous, nous sommes les élèves de la classe de 6e de l'EREA. Nous allons vous présenter notre projet qui s'appelle le projet Archéo.
Archéo vient du mot archéologie. Dans ce projet, nous sommes des apprentis archéologues et nous recevons aujourd'hui l'archéologue responsable du projet, M. Barthélémy.
Il nous a prêté une malle mystère contenant des objets qu'il a découverts lors de ses fouilles. Nous les avons observés en classe et nous avons émis des hypothèses sur ces objets.
Dans la première partie de l'émission, nous allons vous présenter nos hypothèses. Puis M. Barthélémy nous répondra et nous donnera des explications sur ses découvertes. Enfin, nous lui poserons des questions sur son métier d'archéologue.
Bonjour à Abdou et Luna. Pouvez-vous nous décrire les objets prêtés par l'archéologue ? Quelle est leur forme ? Quelle est leur texture ?
Bonjour à tous. Les objets ont une forme ronde et ovale. Certains objets ont une poignée. Quand on les touche, ils sont durs et granuleux. Ça gratte un peu. On a remarqué que les objets avaient la même forme, mais pas la même taille. Il y a ce qu'on appelle deux vases antiques. Un grand et un petit. Et deux pots, un grand et un petit.
Merci Abdou. Luna, de quelle couleur sont ces objets ? Et selon les élèves de 6e, en quelle matière sont-ils fabriqués ?
Ces objets sont gris clair et gris foncé. La couleur n'est pas uniforme. En ce qui concerne la matière, nous avons plusieurs hypothèses. Terre cuite au feu, pierre, béton, plâtre ou argile. Nous ne sommes pas tous d'accord et nous avons besoin des connaissances de l'archéologue.
Eh bien, nous allons justement donner la parole à l'expert qui est sur ce plateau. Monsieur Barthélémy, bonjour. Pouvez-vous nous donner la bonne réponse ?
Bonjour à tous. Eh bien, vous avez en partie trouvé les réponses. Ces objets sont en terre cuite, en argile. Ils ont été fabriqués par des potiers sur un tour de potier. À partir d'une boule d'argile, le potier ou la potière a tourné les objets pour leur donner leur forme. Et il s'agit de deux pots et de deux pichets. Donc le pot a une forme ovoïde, un petit bord rond, un fond plat. Les pichets ont aussi une forme ovoïde, mais un col tronconique. Et ils ont une anse pour pouvoir les prendre. Donc ces objets sont en terre cuite, en argile, et vous aviez en partie trouvé les réponses. Bravo.
Merci, Monsieur Barthélémy. Oui, mais à quoi servaient ces objets ? Jarod, peux-tu nous donner les hypothèses des élèves ?
On ne sait pas très bien, mais on pense que ces objets servaient à mettre de l'eau ou des fruits, ou de la nourriture, comme des cerises, des framboises ou d'autres petits fruits.
Merci Jarod. On laisse la parole à l'archéologue qui va nous expliquer.
Alors, à quoi servaient ces objets ? Bon, ce sont des vases en terre cuite, en céramique, et on a deux formes différentes. Donc on a les pots. Alors le pot, c'est un vase qui servait à stocker de la nourriture, donc toutes sortes de nourriture. Ça pouvait être de la farine, ça pouvait être des graines, comme du blé, des lentilles, des fèves, des pois, ou de la viande, ou même du miel, ou encore, comme vous l'avez dit, des fruits. Pourquoi pas des fruits secs ? Donc ça servait à stocker, mais ça servait aussi à faire à manger. C'est-à-dire que ces pots, on pouvait les mettre sur le feu pour faire la cuisine, préparer un ragoût, préparer un pot-au-feu, préparer une soupe ou des légumes. Les autres, avec leur anse, bon, ce sont des vases qui sont plutôt destinés à recevoir des liquides. C'est-à-dire qu'on pouvait y mettre de l'eau, bien sûr, du vin, de l'huile, de la bière, et on pouvait aussi les mettre sur le feu. Donc on pouvait aussi préparer des boissons chaudes, comme par exemple des tisanes. C'est des vases donc, qu'on retrouvait dans la maison, plus particulièrement dans la cuisine.
Merci beaucoup pour ces explications. Maintenant, Mathis, nous allons nous demander de quand datent ces objets.
Nous avons plus hypothèses. Les groupes n'étaient pas tous d'accord Certains posaient que ces objets dataient de la préhistoire, du néolithique plus exactement. D'autres pensaient qu'ils avaient été fabriqués pendant l'Antiquité, à l'époque des Gaulois et des Romains. Enfin, des élèves ont évoqué le Moyen-Âge.
Mais ensuite, on a observé des pièces de monnaie qui ont été retrouvées au même endroit et qui datent de la même époque. Sur ces pièces, il y avait des écritures, des lettres majuscules. C'est peut-être du latin.
En tout cas, ces écritures nous ont permis d'éliminer une hypothèse, celle de la préhistoire, puisqu'on sait que l'écriture est apparue en moins 3000. Nous pensons donc que ces objets datent de l'Antiquité ou du Moyen-Âge.
Merci Isaac. Monsieur Barthélémy, que pensez-vous des hypothèses des élèves? Pouvez-vous les valider?
Alors votre raisonnement a été très juste, parce qu'effectivement les monnaies qui ont été retrouvées avec ces vases, eh bien, ce sont des monnaies de l'époque gallo-romaine, avec dessus des inscriptions, ce qu'on appelle une titulature. La titulature, c'est le texte qui est écrit autour de la pièce de monnaie, écrite en latin. Et le latin, c'est la langue des Romains, des gallo-romains. Donc ces vases datent effectivement de la période gallo-romaine. Et votre raisonnement sur l'écriture était excellent. Alors plus précisément, les monnaies qu'on a retrouvées avec ces vases datent du 2e siècle après Jésus-Christ. Plus particulièrement, on a retrouvé une monnaie en bronze qu'on appelait un sesterce, qui était à l'effigie, c'est-à-dire sur cette monnaie, on avait la représentation du visage, de profil, de l'impératrice, de la femme de l'empereur Antonin le Pieux, et sa femme s'appelait Faustine. Et sur cette pièce, on arrive à lire l'inscription « Diva Faustina »,« Faustine la divine ». Et grâce à l'histoire, on sait exactement quand est-ce que a vécu Faustine. Elle a vécu au 2e siècle après Jésus-Christ. Elle est morte aux alentours de 140 après Jésus-Christ. Et donc, ses monnaies ont été frappées par son mari en l'honneur de sa femme. Donc l'empereur Antonin le Pieux a fait frapper des monnaies, a fait fabriquer des monnaies à l'effigie de son épouse disparue. Et très précisément, ainsi, nous pouvons dire que ces poteries qui ont été retrouvées, ces vases, ont été fabriquées aux alentours de, on va dire, entre 140 et 160 après Jésus-Christ.
Merci, Monsieur Barthélémy.
Nous revoilà en compagnie aujourd'hui de Monsieur Barthélémy, archéologue. Les élèves de 6e ont beaucoup de questions à lui poser sur son métier.
Pourquoi avez-vous choisi d'être archéologue? Est-ce que vous aimez ce travail? Êtes-vous passionné par votre métier?
Alors, si j'ai choisi ce métier, c'est bien parce que ce métier me passionne. Et je l'ai commencé il y a très longtemps, aujourd'hui. Et c'est un métier qui est intéressant parce que on se pose sans arrêt des questions. On n'a jamais toutes les réponses. Donc, il faut toujours se pencher sur le passé, essayer de comprendre l'histoire. Et une partie de ce métier, effectivement, c'est d'arriver à reconnaître les objets et les dater. Donc tout le métier de l'archéologue, une partie de son métier, eh bien, c'est quand il est confronté à la découverte d'un morceau de poterie, d'une monnaie, d'un ossement, eh bien, c'est d'arriver déjà à l'identifier. Alors, il y a une partie des choses que l'on connaît à force de les découvrir. Donc si je trouve un morceau d'un pot comme celui-ci, je vais tout de suite reconnaître un pot de l'époque gallo-romaine. Mais parfois, il y a des objets qui nous posent plus de questions parce qu'on ne les connaît pas. Alors à ce moment-là, pour arriver à les dater, à les identifier, eh bien on fait des comparaisons. C'est-à-dire que l'objet, on va le nettoyer et puis on va regarder dans des livres, sur Internet, dans des différents documents, on va essayer de comparer pour trouver des objets semblables. Et puis parfois, on ne sait pas tout, donc on demande à des collègues, à d'autres archéologues, qui sont plus spécialistes que nous, d'identifier. Comme par exemple une monnaie, je vais demander à un numismate, c'est-à-dire un archéologue qui connaît les monnaies, d'identifier cette monnaie. Pour des ossements d'animaux, que je ne connais pas, je vais demander à un archéozoologue qui va pouvoir me dire « Ah ben ça, c'est un tibia de chèvre, ou ça, c'est une omoplate de bison. » Donc des collègues qui sont spécialisés dans la reconnaissance des ossements d'animaux. Et puis il y a bien d'autres spécialités, le carpologue qui sait reconnaître les graines, l'anthropologue qui étudie les ossements humains. Alors moi je suis plutôt céramologue, c'est-à-dire que je connais les céramiques. Et puis on a encore d'autres spécialités pour arriver à reconnaître un petit peu tous les types de vestiges qu'on va découvrir. Par exemple, on a encore aussi des collègues qui savent identifier les petits morceaux de métal. Alors eux, on dit qu'ils s'occupent de l'instrumentum. Savoir si ce morceau de fer, c'est un bout de clé ou un morceau d'éperon de cavalier, par exemple. Voilà. Donc, on apprend, on sait des choses, mais également, on fait appel à des collègues qui sont vraiment spécialistes.
Depuis combien de temps êtes-vous archéologue ? Quel diplôme doit-on passer pour être archéologue ? Combien d'années d'études faut-il faire ? À quel âge avez-vous commencé ?
Alors, il y a beaucoup de questions, à la fois. Alors, moi, j'arrive plutôt en fin de carrière, hein, mes cheveux blancs le prouvent, mais j'ai commencé, hein, disons, assez jeune, parce qu'il se trouve que mon papa faisait de l'archéologie, non pas en professionnel, mais en amateur. Il s'occupait de l'association d'archéologie de Mâcon. Donc, tout petit, je l'ai accompagné sur les chantiers de fouilles. Donc, c'est vrai que j'ai commencé très tôt. Mais disons que c'est à partir d'environ 23-24 ans que j'ai commencé à vraiment faire ce métier en tant que professionnel. Quelles études faut-il faire ? Alors, aujourd'hui, pour devenir archéologue, il n'y a pas énormément de voies différentes. Disons qu'il faut passer le bac. Ensuite, il faut aller à l'université pour faire des études pendant au moins 5 ans, jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le Master 2, donc 5 ans après le bac, et en spécialité archéologie. Alors, les premières années à l'université, c'est un petit peu différents enseignements, hein. On ne fait pas que de l'archéologie. Souvent, il y a de l'histoire de l'art, de l'histoire, de l'archéologie. Et puis, petit à petit, on se spécialise pour vraiment ensuite choisir l'archéologie. Et dans l'archéologie, choisir une spécialité. Le Moyen-Âge, la préhistoire ou encore l'Antiquité. Donc, de toute façon, aujourd'hui, pour devenir archéologue, il faut faire des études après le bac à l'université.
Pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes pour dater les objets que vous trouvez ? Et comment connaissez-vous l'utilité des objets ? Enfin, quels outils utilisez-vous pour fouiller ?
Alors, comment reconnaître les objets ? Donc, je l'ai un petit peu expliqué, hein. C'est déjà avec l'habitude, d'année en année, à force de retrouver des objets dans le sol, on finit par les reconnaître, apprendre à les reconnaître. Et avec un seul petit fragment de céramique, avec un petit fragment de métal, on arrive à reconnaître les objets. Et ensuite, par comparaison, on arrive à les dater. Alors, à quoi servaient ces objets ? Eh bien, tout ça, on arrive à le savoir, déjà simplement par leur forme. Un pot en poterie, hein, en céramique, eh bien, il servait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire la cuisine, à stocker des aliments. Un vase avec une anse, eh bien, c'est parce qu'il servait à verser. Et puis, il y a également les conditions dans lesquelles on retrouve ces objets. C'est-à-dire que on va retrouver, par exemple, une clé. Bon, on sait qu'une clé, ça sert à ouvrir une serrure. Et puis, il y a des objets qu'on va retrouver dans des sépultures, dans des tombes. Donc ça, c'est des objets qui peuvent avoir non seulement une vocation utilitaire, mais aussi ils peuvent être entourés d'une certaine... On les mettait dans la tombe parce qu'on pensait qu'ils portaient chance, par exemple, qu'ils protégeaient. Donc il y a des objets qui non seulement ont une utilité pratique, mais aussi qui ont une utilité disons, spirituelle, de protection. On retrouve par exemple des petites statuettes qui représentaient des divinités. À l'époque gallo-romaine, dans l'Antiquité, on retrouve assez couramment ces petits objets qui représentent, par exemple, le dieu Mercure ou la déesse Vénus. Donc on pense que ces objets, ils étaient, on les retrouve soit dans une maison, soit parfois dans une tombe, parce qu'ils étaient censés protéger les gens. Et puis, on trouve par exemple aussi des lampes en terre cuite, comme la lampe d'Aladin. Eh bien là, c'est pareil. Ces lampes, elles pouvaient avoir une utilité pour s'éclairer, mais aussi, on sait qu'on les mettait dans les tombes parce qu'elles étaient censées aussi protéger la personne. Donc c'est en regardant où est-ce que l'objet a été trouvé, dans quel contexte il a été trouvé, qu'on arrive à émettre des hypothèses sur à quoi servaient les objets. Évidemment, il y a des choses qui nous échappent encore, et c'est pour ça qu'on continue à faire de l'archéologie, à faire des fouilles, pour comprendre à quoi servaient ces objets, et surtout, comment vivaient les gens qui les utilisaient. Alors, les outils. Alors, les outils pour faire des fouilles, eh bien, ça va de la pelleteuse à l'outil de dentiste. Parce que, pour commencer un chantier, on a souvent beaucoup de terre à enlever, et si on le fait à la main, ça va être très fatigant. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc, pour commencer une fouille, en général, on demande à une pelleteuse, enfin à quelqu'un qui conduit une pelleteuse, de commencer le travail. Et on surveille, et bien évidemment, on guide le travail du pelleteur pour enlever toute la terre, tous les remblais qui ne nous intéressent pas. Puis ensuite, on intervient avec des plus petits outils. Alors évidemment, si on a encore de la terre à enlever, on a la brouette, la pioche, la pelle. Et puis plus le travail devient soigneux, plus on utilise des outils de petite taille. Alors l'outil le plus commun de l'archéologue, le plus courant, c'est la truelle. On utilise une truelle pour gratter le sol. Et puis quand on rencontre vraiment des choses très délicates, par exemple si on trouve une sépulture, un squelette, là, on va laisser la truelle et on va prendre des outils de dentiste pour enlever très soigneusement la terre, pour ne pas abîmer les ossements qu'on aura découverts. Et puis, pour enlever cette terre, on utilise aussi un pinceau, et puis on peut même utiliser un aspirateur pour bien nettoyer la sépulture. Donc, voyez, on a des outils qui vont du plus puissant au plus fin.
Merci, monsieur Barthélémy.
Avec plaisir.
Avez-vous trouvé des objets ailleurs qu'à Mâcon, à Paris ou dans un désert, par exemple? À quel endroit vous fouillez le plus souvent?
Alors, je fais partie d'un organisme qui s'appelle l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Donc, le travail des archéologues de l'INRAP, puisque c'est le nom de cet organisme, eh bien, c'est de fouiller là où il va y avoir des travaux. C'est-à-dire que notre travail, notre rôle, c'est d'estimer là où va y avoir la construction d'une route, d'un immeuble, l'aménagement d'une zone commerciale, etc. Savoir si, dans le sous-sol, dans la terre, il y a des traces du passé. Et si les travaux qui vont avoir lieu risquent de les détruire. À ce moment-là, nous intervenons pour les sauver, pour les fouiller, afin qu'ils ne soient pas détruits par les engins qui vont terrasser le sol. Alors ça se passe souvent en deux phases. La première, on fait ce qu'on appelle des sondages, c'est-à-dire qu'on regarde, on fait une série de sondages, une série de trous pour voir si dans le sol il y a quelque chose d'intéressant, s'il y a des vestiges, des traces du passé qui peuvent dater de la préhistoire, de l'Antiquité, et ça peut même aller jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et si c'est le cas, s'il y a des objets qui sont découverts, à ce moment-là, on peut envisager de faire des fouilles, c'est-à-dire que tout le terrain qui est menacé de destruction, tous les vestiges qui sont menacés de destruction, nous allons les fouiller, nous allons les étudier. Alors nous travaillons sous la direction du ministère de la Culture, ça c'est très important, hein. C'est pas nous qui choisissons de faire des trous à droite à gauche, non, on travaille dans un système très réglementé pour que ce patrimoine, puisque C'est ça. Ce sont ces vestiges, ce sont du patrimoine. C'est le patrimoine. Ça appartient à l'ensemble de la société. Eh bien, ils soient protégés parce que, à partir de ces découvertes, nous allons pouvoir contribuer à écrire l'histoire. Alors, pour ma part, c'est vrai que je travaille beaucoup dans la région mâconnaise. Alors, j'ai déjà fouillé ailleurs, mais c'est surtout à Mâcon et en Mâconnais que je travaille. Et j'ai découvert, c'est vrai, avec mes collègues, hein, parce qu'on ne travaille jamais tout seul, c'est un travail d'équipe, on découvre beaucoup de vestiges. Alors, ce sont des poteries, des monnaies, des ossements d'animaux. Mais tout ça, ça concerne l'histoire humaine. C'est-à-dire que on est dans les époques qui sont sur votre frise chronologique dans vos classes, c'est-à-dire la préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne. Tout ce qui est dinosaure, c'est très intéressant, mais ce n'est pas le travail de l'archéologue, c'est le travail du paléontologue. Mais j'ai des collègues à qui c'est arrivé, sur des fouilles, sur des chantiers de fouilles, de trouver des restes de dinosaures. Mais ça, c'est exceptionnel.
Avez-vous déjà trouvé des bijoux, des pierres précieuses ?
Alors malheureusement, j'ai jamais trouvé de pierres précieuses, j'aurais bien aimé. Des bijoux, oui, c'est-à-dire des petits bijoux en bronze, des agrafes qu'on appelle des fibules. J'ai déjà trouvé aussi des perles en verre, donc des petits bijoux du quotidien. Mais je vais peut-être vous décevoir, mais j'ai jamais trouvé de trésor.
Et nos dernières questions, Monsieur Barthélémy, qu'est-ce que vous avez trouvé récemment ? Quelle est votre trouvaille la plus précieuse ?
Alors récemment, on a fait des fouilles à Mâcon, derrière l'église Saint-Pierre. On a trouvé une partie de la ville de Mâcon datant du Moyen-Âge, avec des ossements d'animaux, des poteries, etc. Mais je vais surtout insister sur la dernière question. Qu'est-ce que j'ai trouvé de plus précieux ? Alors, quand j'avais votre âge à peu près, une dizaine d'années, peut-être un peu plus jeune, comme je vous l'ai dit, mon père faisait de l'archéologie. Je l'avais accompagné sur un chantier dans le sud de la France, dans la Drôme. Et il travaillait avec d'autres archéologues sur un site occupé à l'époque, au début de la période des Gaulois. Et les Gaulois qui vivaient à cet endroit, dans le sud de la Drôme, eh bien, c'était des gens qui faisaient du commerce avec les Grecs de Marseille, avec les Marseillais. Et arrivé jusque sur cet oppidum, ce village fortifié, dans le village du Peg, sur la colline Saint-Marcel, arrivaient des objets qui venaient directement de la Grèce, des poteries. Et j'avais 10 ans, et avec ma truelle, je grattais le sol, et tout à coup, j'ai vu sortir du sol un petit morceau aux couleurs rouge et noir, et il s'agissait d'un fragment de vase grec, un vase qu'on appelle la figure rouge. Alors, c'était qu'un morceau, mais déjà, c'était assez extraordinaire de trouver ça. Et puis surtout, quand le morceau a été nettoyé, nous sommes allés jusqu'au musée, où étaient présentés déjà des vases qui avaient été trouvés. Et le petit morceau que j'avais trouvé, il est venu parfaitement se coller sur un vase qui était déjà présenté. Une coupe en céramique, qu'on appelle céramique attique, qui représentait un cavalier sur un cheval. Et ce que j'avais trouvé, c'était juste le morceau qui manquait, l'arrière du cheval. Et le petit morceau, hop, il est venu parfaitement se coller sur ce vase. Alors j'étais totalement fier de moi, parce que j'avais contribué à reconstituer un vase qui avait environ 2600 ans et qui était présenté dans le musée. Et si vous allez au musée du Peg, dans une vitrine, vous pourrez voir cette coupe, ce skiphos, en attique à figure rouge. Et si vous regardez bien, vous verrez que l'arrière du cheval, c'est un morceau qui vient se coller. Et bien, c'est moi qui l'ai trouvé. Voilà, c'est un de mes plus beaux souvenirs d'archéologue. Et j'avais 10 ans.
Merci beaucoup, Monsieur Barthélémy, pour votre visite à l'ERIA. Vous nous avez apporté des réponses à nos questions et vous nous avez appris beaucoup de choses. Encore merci de la part de tous les élèves de 6e et vive le projet Archéo.
Nous sommes impatients de continuer ce projet et de vous présenter la suite de nos expériences lors d'une prochaine émission.
Thank you.